Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Pas facile d'aller se confesser, pas évident non plus de dire ce qu'on a fait de mal, surtout quand c'est grave et qu'on n'en est pas fier. Comment dépasser ces appréhensions? C'est ce que nous allons voir ce matin dans Vivante Église. Joie de la confession, conseils et encouragements aux éditions Yeshua. C'est le titre du livre du père Gaspard Craplet, prêtre de la société Saint-Jean-Marie Vianney. Bonjour père.
Bonjour.
Vous êtes aumônier de jeunes et de passage dans notre région pour donner une conférence. Votre livre s'intitule « Joie de la confession ». Pourtant, on a plutôt envie de dire « pinsomme de la confession ». Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez en quoi la confession est joyeuse.
Elle est joyeuse d'abord parce que le Seigneur lui-même dit qu'il y a plus de joie pour un pécheur qui se convertit que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de confession. Pourtant, des justes qui n'ont pas besoin de confession, c'est extraordinaire.
Oui, il doit
donc
pas y en
99,
avoir beaucoup, hein.
C'est énorme. Et là, donc à chaque fois qu'on va se confesser, Dieu exulte de joie. Voilà, c'est pour ça qu'il donne toutes ces paraboles, la parabole de l'enfant prodigue, avec cet enfant qui a fait un peu n'importe quoi, qui a pris l'héritage, qui a eu une vie de débauche, et quand il revient, le père est tellement content qu'il ne le laisse pas avouer ses péchés, il laisse dire, mais tout de suite, vêtements blancs, oui. On tue l'agneau, etc. On fait une fête, et parce que voilà, il était mort et il est revenu à la vie. Et donc c'est une grande joie pour Dieu, et le prêtre aussi, se réjouit, parce qu'il sert enfin à quelque chose. Vous voyez, nous les prêtres, on a donné notre vie pour être dans la main du Seigneur, pour permettre le salut des gens. Et donc, pour nous, c'est extraordinaire. On voit des gens qui arrivent et qui sont ressuscités. Et on voit comme un miracle en direct. Donc c'est pour ça que c'est aussi une grande joie. Et moi, je dis souvent que si on veut remonter le moral d'un prêtre, bah, il suffit que lui donner la possibilité de confesser. Parce que, eh bien, voilà, il est utile. Sinon, bon, ben, un prêtre, des réunions, tout ça, ben, c'est bien.
Mais il y a quand même la célébration de l'Eucharistie.
Alors, il y a aussi la célébration de la messe. Mais si vous voulez la célébration de la messe, la vraie joie, bien sûr, Jésus est là, mais c'est aussi que les gens l'accueillent. Et donc, tout va être en fonction de la manière dont les gens vont accueillir la messe, vont adhérer à ce Jésus qui vient en eux. Et ça, ils y adhèrent vraiment si ils ont pu se confesser avant. Et c'est pour ça que le curé d'Ars, il était fan du sacrement de l'Eucharistie, mais du coup, il passait des heures et des heures au confessionnal. C'est-à-dire que c'est assez lié. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment une joie pour le prêtre. C'est une joie aussi pour la personne qui va se confesser. Bien sûr, pas avant. On est tous pareils. C'est pas évident d'aller se confesser. Sauf si on n'a pas fait de péché, bien sûr. Mais,
dans ce cas, on va pas se confesser. Voilà. Enfin, bon,
mais si, par exemple, les enfants, eh bien, ils aiment bien aller se confesser jusqu'à 10-11 ans. Il n'y a pas de souci. Ils sont tout contents. Souvent, ils disent, mais pourquoi maîtresse, vous n'y allez pas, etc. Mais après, évidemment, quand on grandit, ça devient plus difficile, on a plus honte, etc. Mais il faut reconnaître qu'il y a une vraie joie après la confession. On ne peut pas filmer une confession parce que c'est du secret, mais si on filmait la confession, eh bien, on verrait le changement.
Sur
le visage. Et les gens vraiment se réjouissent, sont dans la joie. Et souvent, d'ailleurs, ils disent « Merci, mon père !» Alors qu'en fait, le prêtre, ça ne vient pas de lui, c'est Dieu qui pardonne.
Oui, voilà. C'est l'instrument.
Alors, le pape Benoît XVI disait « Le prêtre, il donne ce qu'il ne peut pas donner. Voilà, » Donc, c'est assez beau comme définition. Voilà. Donc, il y a une joie, vraiment. Et le curé d'Ars lui-même disait « Moi, si j'étais triste, j'irais tout de suite me confesser. »
Ah.
Donc c'est-à-dire que de fait, la personne, elle retrouve la joie, pour ça je l'ai appelé ce livre « Joie de la confession », parce qu'on retrouve la joie après. Et puis moi j'insiste aussi sur une quatrième joie, en plus de Dieu
la joie
qui
de
se
Dieu,
réjouit, le prêtre qui se réjouit de servir à quelque chose,
le pénitent.
Le pénitent, et puis bien sûr les autres. Un jour j'ai eu un fiancé dans ma voiture, je l'emmenais à la gare, on avait eu une rencontre. Et puis, je lui ai dit, j'ai une idée de cadeau pour ta fiancée. Alors, elle me dit, si les prêtres ont des idées de cadeaux maintenant. Et je lui ai dit, oui, tu vois, si tu sentais mauvais et que je te disais avant de rencontrer ta fiancée, tu vois, en fait, là, tu sens mauvais, il faudrait que tu prennes une douche.
Ouais.
Et bien, tu me remercierais, parce qu'on ne s'en aperçoit pas toujours qu'on sent mauvais. Et là, tu vois, je te conseille d'aller te confesser. Alors, il m'a trouvé un peu gonflé, mais il est allé se confesser et voilà, il a compris qu'effectivement ça allait libérer son cœur et qu'on est plus en paix. Et donc, ça rejaillit sur les autres. Voilà. Moi, je sais que ma maman, quand j'allais me confesser, à partir de 18-19 ans, quand j'ai commencé à me convertir sérieusement et à vouloir vivre une vraie vie chrétienne, j'ai commencé à aller me confesser. Et ma maman, alors ça m'énervait, bien sûr, mais elle faisait remarquer, elle disait « Ah, ben non, ça va mieux quand tu sors de la confession. »
Voilà. En fait, c'est un bénéfice pour les autres.
Pour les autres, ouais. Ça rejaillit. Il y a une phrase de Bernanos dans le journal d'un curé de campagne où il fait dire au prêtre qui est dans ce livre « Nos mauvaises pensées empoisonnent l'air que d'autres respirent. » Voilà, c'est-à-dire que ce qui se passe dans notre cœur... Ben, en fait, c'est notre cœur qui fermente ou ça va pas bien. Ben, en fait, ça empoisonne l'air.
Oui, parce ça rejaillit.
Que on est plus ingrat. Plus... Et ça, moi qui m'occupe beaucoup de jeunes, ils le voient bien. Je sais pas, ils rentrent le week-end à la maison et puis ben, ils se laissent aller. Et voilà. Et ben, du coup, ils sont mécontents d'eux-mêmes et énervés à cause d'eux-mêmes. Et du coup, ben, c'est tous les autres qui en pâtissent.
Ouais, c'est ça.
Alors que... une bonne confession, ça nous remet en paix avec nous-mêmes et la paix, du coup, elle rayonne. C'est pour ça que ça apporte la joie aux autres. Et je dis souvent qu'un mari, s'il veut faire plaisir à sa femme, bah, il peut aller se confesser.
Voilà. Et puis, c'est aussi cette expression, une âme qui s'élève élève le monde.
Toute âme qui s'élève élève le monde. Voilà ce que disait Élisabeth Le Sœur, hein, donc cette mystique du début du XXe siècle. Voilà, toute âme qui s'élève élève le monde, ça rejaillit. En fait, et d'ailleurs, c'est encore plus fort que cette histoire de mauvaise pensée qui tire vers le bas. C'est-à-dire que c'est comme la corde en montagne. Évidemment, la corde, c'est dangereux parce que celui du bas, il peut tirer un grand coup et faire tomber celui du haut et les deux peuvent tomber. Mais en général, on met quand même la corde parce que, en fait, statistiquement, eh bien, on joue le jeu et en montagne, on s'entraide et grâce à la corde, on monte plus haut.
Oui, merci pour tous ces tout, voilà de commencer cette émission par la joie, hein, joie de la confession pour Dieu, pour le confesseur, le prêtre, pour le pénitent et puis évidemment aussi pour les autres. Alors on va quand même malgré cette joie promise s'arrêter sur le fait que c'est quand même difficile d'aller se confesser. Pourquoi il y a cette difficulté, Père Gaspard Caraplay?
Alors la difficulté, je pense qu'il y en a deux, mais elles sont liées. C'est d'abord des péchés dont on a honte. Voilà. Donc ça, c'est un peu étonnant parce que les péchés, on les a faits, mais voilà, mais on en a honte. Voilà, c'est difficile pour nous d'avouer la faute. Voilà. C'est pourtant nécessaire, tous les psychologues sont d'accord que c'est important de dire les choses, d'objectiver les choses, de les mettre loin de nous, de les déposer. On appelle ça que c'est symbolique, mais on dépose les choses. Donc ça, c'est à cause du péché lui-même. C'est pour ça que je disais que les enfants, c'est plus simple, parce que, bon, ils sont plus légers, voilà.
Et cette honte, elle vient aussi peut-être de ce besoin de se montrer, pas parfait, mais en tout cas sous un beau jour.
Oui, c'est ça. Il y a un besoin qui naît de plus en plus, c'est vrai, avec l'adolescence, puis qui continue quand on est grand. C'est-à-dire qu'on est très sensible au regard des autres et... de l'estime de soi-même, voilà, on va passer, c'est vrai, à l'adolescence, mais ensuite ça continue, hein, on passe pas mal de temps dans les miroirs. Moi, j'ai été logé dans un hôtel très chic à l'occasion d'une conférence, ça m'arrive jamais, d'habitude je suis sous la tente, moi, il n'y a pas de douche et tout ça. Là, mais alors il y avait des miroirs partout. Et alors, je me suis dit, mais c'est complètement égocentré.
C'est narcissique, là. Hein.
Ouais.
Ouh, là, là.
Voilà, et donc, il y a ça, il y a la honte, mais surtout, mais c'est pour ça que c'est lié, c'est le deuxième point, c'est qu'on est très très marqué par que va penser le prêtre. Voilà, que va penser le prêtre. Et c'est, j'allais dire que c'est le grand problème, c'est le prêtre. Alors, en même temps, c'est quelque chose qu'a voulu Jésus. C'est-à-dire que, parce qu'il y en a qui disent, bah, moi je j'irai plutôt dans les bois, dire mes péchés comme ça,
oui,
aux arbres.
Oui, passer directement voilà. Par Dieu,
voilà.
Ouais, à Dieu.
Mais en fait, c'est Dieu qui l'a voulu. Alors, évidemment, il connaît le cœur de l'homme. Donc, il sait qu'il y a un besoin... D'abord, comme je le disais, de dire et d'objectiver ses péchés, de les formuler, d'en prendre la responsabilité. Voilà, l'homme solide, la femme solide, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités. Aujourd'hui, on dit facilement, bah, on n'est pas coupable, il n'y a personne qui est coupable.
C'est pas de ma faute, c'est l'autre.
C'est ce que font les enfants. Et ils cassent les assiettes devant tout le monde et ils font, c'est pas moi. Bah si, c'est moi, c'est de ma faute et j'assume. Et c'est très beau, quelqu'un qui assume, et c'est comme ça qu'on peut grandir. Donc Dieu, il voit bien tous nos péchés, mais il veut qu'on assume, donc qu'on le dise objectivement, mais devant un témoin. Voilà, devant un témoin, parce que ben, comme ça, c'est objectif, sinon voilà, ça n'a pas la même force. Et puis deuxièmement, il veut que le pardon de Dieu, qu'il va donner lui, Dieu, soit aussi objectif. C'est-à-dire que à travers le prêtre, il va y avoir une parole objective. Et ça, ça change tout. Parce que si vous avez pris un temps de prière et vous demandez pardon à Dieu, bah c'est bien, mais vous n'entendez pas une voix de Dieu qui dit « Je te pardonne, mon fils ». Voilà. C'est vrai que là, vous avez ce pardon. Et je sais que moi-même, quand je vais me confesser, d'entendre cette parole du prêtre, et moi, je te pardonne, je sais dans ma foi que je suis pardonné. Donc, il y a un avant et un après. Et c'est ça aussi, on a besoin de quelque chose d'objectif. Voilà. On a besoin d'entendre une parole libératrice. Voilà. Oui, c'est tout bête, mais vous connaissez... même dans l'amour, dis-moi que tu m'aimes, mais je te le dis pas, tu le sais. Et alors dans ce cas-là, pourquoi tu le dis pas? Voilà. Donc on a besoin d'entendre, et là d'entendre, je te pardonne. Voilà. Donc Dieu qui nous pardonne à travers le prêtre. Donc ça vient de Jésus. C'est-à-dire que Jésus, le soir de la résurrection, premier acte qu'il fait quand il est ressuscité, il aurait pu dire. Des tas de choses. Enfin, quand on revient, il était mort et il est revenu à la vie. Il a dit « La paix soit avec vous ». Et ensuite, il souffle sur eux. Il leur donne l'Esprit Saint. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ». Donc, il les donne tout de suite ce pouvoir. C'est-à-dire que c'est pour ça que je l'appelle le sacrement de la joie, parce que, eh bien, Jésus est ressuscité. C'est la joie. On le voit ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne la possibilité de pardonner les péchés. C'est-à-dire que pour bénéficier de la joie de la résurrection, il faut recevoir le pardon. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux apôtres, recevez l'Esprit Saint, tous ceux qui vous remettraient les péchés sont remis, donc il leur donne ce pouvoir de remettre les péchés. Et les premiers chrétiens ont bien compris qu'on ne peut recevoir le péché que si les apôtres sont au courant. Puisque comment ils vont pardonner les péchés s'ils ne savent pas? Donc ils ont bien compris qu'il fallait dire ses péchés. Voilà, il fallait dire ses péchés. Et c'est une volonté de Dieu qu'on puisse dire nos péchés devant le prêtre. Et d'ailleurs, même Luther, qui ne trouvait pas que c'était un sacrement, disait c'est très important de dire ses péchés.
Déposer.
Voilà, déposer. Et alors, moi j'aime beaucoup cette réalité. Dans Saint Jacques, dans la lettre de Saint Jacques, il est dit « Confessez vos péchés les uns devant les autres ». Alors, dire ses péchés devant tout le monde, pas évident. Non. C'est pas évident. Alors, le philosophe Pascal, ce grand chrétien, disait, l'Église est quand même sympa, parce que au lieu de confesser nos péchés devant tout le monde, les uns devant les autres, on confesse nos péchés que devant une seule personne. Et en plus, donc le prêtre, tenu au secret absolu.
Oui, ça, on là, en parle y a une garantie. Tête,
mais il y a une garantie de secret absolu, c'est-à-dire que le prêtre, il est excommunié s'il trahit.
Ce secret.
Donc,
oui.
Donc c'est quelque chose de très fort qui fait qu'on est en sécurité. Voilà, c'est pour que la parole puisse être libérée. Mm. Voilà. Et donc, voilà. C'est...
Sur cette question qu'on peut se poser, que va penser le prêtre? Justement, vous, le prêtre que vous êtes, qu'est-ce qu'il pense quand il a quelqu'un qui vient se confesser, soit quelqu'un qui n'est pas venu depuis des années, ou au contraire, quelqu'un qui vient très régulièrement et pour qui il a l'impression de pardonner des broutilles?
Alors, en fait, le prêtre...
Comment il accueille?
Se réjouit de voir quelqu'un qui s'approche de Dieu, voilà, et qui ouvre son cœur. Alors, il y a les deux. Hein. Il y a le pécheur qui revient de loin ou qui a péché plutôt gravement. Mais après, on peut pécher plutôt gravement aussi régulièrement. Enfin, je veux dire, en soi, Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Et donc, le prêtre... Eh bien, il est dans une grande joie. Moi, je prends cet exemple qu'un jour, à 20 ans, j'ai cassé la voiture de mes parents parce que c'est moi qui payais l'essence pour mettre dedans. Je travaillais pour gagner de l'argent, donc je ne voulais pas mettre trop d'argent dans l'essence. Et donc, j'avais trouvé ce moyen stupide qui était de freiner le moins possible dans les virages parce qu'il fallait sinon réaccélérer derrière et que ça utilisait de l'essence.
Ah oui.
Et donc, évidemment, un jour, il a plu, je suis allé tout droit. J'ai suis passé juste à côté de la pile d'un pont où j'aurais pu mourir si je l'avais touché. J'ai coupé un poteau télégraphique, là, qui a bousillé la voiture. Puis, je suis tombé dans le ravin. La voiture était complètement foutue. Mmh. Je suis rentré en stop à la maison et j'ai dit, mais chers parents, la voiture est complètement fichue. Et donc, là, ils ont compris qu'en fait, j'ai failli mourir.
Oui.
Et tout de suite, ils ont dit... Mais on s'en fiche de la voiture, tu es vivant.
L'essentiel,
et ils m'ont fait
toi.
Un super dîner. Et je me souviens de ça. Et je pense, voilà, pour moi, le prêtre, il agit pareil. C'est-à-dire qu'il revoit quelqu'un qui revient de loin. Et pareil, je prends un autre exemple. J'ai un ami médecin qui est réanimateur, voilà, qui est chirurgien. Qui va... Donc en fait, les accidentés de la route, voilà, il les reçoit en mille morceaux. Et il soigne. Et je suis allé dîner chez lui un soir. Et il m'a dit, voilà, j'ai quelle joie, le jeune, de, eh bien, j'ai réussi, il est sauvé. Voilà, on a réussi à le sauver. Donc c'était une grande joie. Et il ne m'a pas dit, mais quel abruti, il a fait ceci, etc. Non. Et
Il s'est pas
donc,
arrêté à la faute,
non,
enfin,
on ne s'arrête
à
pas à la
l'acte
faute.
lui-même.
On voit,
Oui.
on regarde. Et même à la limite, plus on a fait des péchés graves, plus le prêtre est content. C'est-à-dire plus on revient, voilà, on revient vers Dieu. Et c'est ça, et même quelqu'un qui ne pêche pas beaucoup et qui revient régulièrement, eh bien, on ne s'en lasse pas, toujours, on revient vers le Seigneur. Et c'est édifiant. Et ça, que va penser le prêtre? Eh bien, le prêtre, il pose ce regard d'admiration vers celui qui revient vers Dieu. Et puis le prêtre, il est pêcheur aussi. Et d'ailleurs, les gens disent oui, mais les prêtres, ils pêchent moins. Alors ça serait à voir. Mais surtout, le prêtre, il est tellement proche de Dieu à célébrer la messe, à parler, à donner des conseils aux autres, qu'il devrait être un saint, quoi. Donc, tout péché du prêtre est encore plus grave. Donc, le prêtre, lui, il voit quelqu'un qui se rapproche de Dieu, ça lui donne envie, lui aussi, de se rapprocher de Dieu, etc. Et donc, ça, il pose un regard d'estime profonde. En tout cas, moi, je vois avec mes confrères. On estime profondément quelqu'un qui vient reconnaître ses fautes, voilà. Et puis aussi, que va penser le prêtre? Les gens pensent qu'on va enregistrer les choses, retenir. Mais en fait, moi je leur dis, mais vous savez, nous, on se met exprès, on n'a aucun intérêt, comme on est tenu au secret, on n'a aucun intérêt à s'amuser. D'abord, le péché est classique. Voilà. Il n'y a rien d'original dans le péché. C'est l'Esprit Saint qui fait des choses originales. Dieu, il fait toutes choses nouvelles. Tous les saints, par exemple, ils sont tous différents. C'est extraordinaire. Par contre, les péchés, ils sont tous les mêmes, partout, tout le temps.
Donc vous
Voilà.
avez une grâce de d'oubli, on peut
Alors,
dire quelque chose comme
je
ça?
ne sais pas, il y a peut-être des grâces d'oubli, Dieu donne ses grâces comme il veut, mais je dirais que moi, en tout cas, c'est surtout, je fais ce que je faisais en cours, c'est-à-dire un cours qui m'intéresse pas spécialement. Je l'entends. Mais qu'est-ce qu'il en reste 2 heures après? Ça, il n'en reste rien en fait. Voilà. C'est-à-dire que je mets ça dans la mémoire vive. Quelquefois même, je ne me souviens plus de ce que le jeune ou la personne moins jeune a dit au début. Voilà. Donc quelquefois, et alors, vous auriez un conseil pour le péché que j'ai dit au début?
Ouh là
Alors
là,
moi,
alors là, c'est un peu
je
embêtant
m'en
quand même.
souviens plus. Et puis, je cherche pas d'ailleurs à me ressouvenir. Donc je relance pas ma mémoire dessus. Parce que vous savez, pour apprendre une leçon, il faut faire revenir la
Il faut
mémoire
répéter.
régulièrement. Donc là, non. Et dans ce cas-là, bah, je donne des conseils. Je dis, ben, eh ben, Dieu veut que vous puissiez avancer dans la confiance, etc. Je donne des conseils plus globaux.
Oui,
Voilà. Parce
d'accord.
que voilà, je ne veux pas retenir. Et donc c'est ça qui est bien, c'est que le prêtre a ce regard d'admiration. S'il reste quelque chose chez le prêtre, c'est l'admiration. Donc quelquefois, moi, je vois quelqu'un que j'estime beaucoup, mais je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être c'est parce que, voilà, peut-être qu'un jour il s'est confessé, je ne sais pas.
En tout cas, voilà, il ne faut pas avoir peur de ce que va penser le prêtre pour aller se
Exactement,
confesser. Hein. Ouais.
exactement. Et parce que ben c'est son rôle, et je veux dire, à la limite, il est payé pour ça, quoi. Voilà, c'est il est là au nom de Dieu pour donner le pardon et il se réjouit. Un jour, je vais me confesser et je dis quelque chose qui était difficile à dire. Voilà, on parlera peut-être après des techniques pour dire les choses difficiles, mais
Exactement.
je dis choses difficiles et le prêtre s'exclame béni sois-tu, Seigneur, pour. Alors moi, je me dis, mince, il n'a pas compris ce que j'ai dit. Et puis s'il n'a pas compris, il faut répéter. Donc c'est j'étais embêté. Et puis il dit béni sois-tu pour l'humilité de Gaspard. Et voilà. Donc je me dis, ah, ben, si, il a bien compris. Voilà. Donc c'est ça, ça nous encourage. Voilà. C'est pour ça que le prêtre a une responsabilité aussi. Pour encourager.
Et dans ce cas, dans son attitude d'accueil.
Voilà, je suis très frappé par cette petite histoire vraie. Un lieutenant français qui était prisonnier en Allemagne, qui a entendu parler des apparitions de Notre-Dame de la Salette par un prêtre, très touché, et en même temps, lui, il était très anticatholique, il se moquait des choses, mais il était très énervé d'être touché. Donc, il se dit, bah, je vais aller voir sur place. Il s'évade en se disant, bah, la Sainte Vierge, si elle a vraiment apparu à la Salette, elle pourra bien veiller sur mon évasion. Il réussit à s'évader et il va vérifier. Et il a dit au prêtre qui avait fait la conférence, je vous enverrai une carte postale, je vous dirai si c'est vrai ou pas. Et arrivé là-bas, il est converti, et donc il n'envoie pas juste une carte postale, mais une longue lettre, et qu'on a toujours, et qui est conservée à la Salette, et qui dans laquelle il raconte sa confession. Et il raconte que ben, il va voir le prêtre et qu'il dit ses péchés, il était très gêné, donc il dit un péché. Et le prêtre, au lieu de le gronder, ce qu'il s'attendait à ça, lui. Et le prêtre dit « Bien !» Alors, surpris, du coup, il va dire quelque chose de plus grave.
Oui, il est
le
prêtre, encouragé à continuer. «
Bien !» Alors là, il dit un gros péché qu'il ne pensait pas dire, qu'il pensait bien garder pour lui. Et alors, le prêtre dit « Très bien !» Alors là, tellement encouragé, il sort le gros péché de sa jeunesse que jamais il aurait pensé, dans cette démarche, jamais il aurait pu... Vous voyez, c'est comme un accouchement, quoi.
Et oui,
petit
ça.
À petit, le,
étape les par choses... étape. Ouais.
Et là, le prêtre dit « Parfait. » Alors, le lieutenant lui dit mais père, c'est pas du tout parfait ce que j'ai fait. Oh, c'est parfait ce que Dieu est en train de faire dans votre cœur.
Ouais, voilà. Il fait la lumière. Voilà. Ouais.
Alors, et moi, les jeunes, quand je dis que je vais faire un topo sur la confession, ceux qui l'ont déjà entendu, ils font déjà les imitations. Bien. Voilà. Et parce que ça nous réjouit de savoir qu'on va être encouragés. Voilà. Et c'est vrai que le confessionnal, c'est le pape François, il insistait beaucoup là-dessus. C'est pas une salle de torture, c'est un lieu où on va être encouragé. Dieu va prendre son bien-aimé dans les bras et pour le relancer, le refaire à neuf, pour le relancer dans la vie.
Oui. Je vous propose, Père Gaspard Craplet, de nous arrêter quelques instants et vous nous direz juste après comment justement il faut y aller, quelles sont les techniques pour dire voilà, ce qu'on a sur le cœur, nos péchés. Nous écoutons Bambino, interprété par Les Guetteurs.
On est tous des enfants du Seigneur, tu sais, ce qui brûle en nous peut brûler dans ton cœur, et c'est bâtissons un monde meilleur. Que le soleil puisse briller sur tous nos frères et sœurs. On est tous des enfants du Seigneur, tu sais, ce qui brûle en nous peut brûler dans ton cœur, et c'est bâtissons un monde meilleur. Que le soleil puisse briller sur tous nos frères et sœurs. Et mon sang va te bousculer en tantinet, oh. On a de la peine, ma force de voir le sang couler, oh. Nous sommes des sentinelles dans un monde sans idéaux. On met le point sur les i, l'accent sur les o. Bambino, bambino, dis-leur que la force est dans le love. Que l'amour vaincra quoi qu'en pensent les autres. On a le cœur lourd, il doit peser des tonnes. À force d'encaisser les mots durs de voir sombre les hommes. Ils m'ont tiré vers le bas.
Sur le cœur, le bien de ceux qui déraisonnent. Amour, confiance avec ça, elle façonne. Amour, confiance avec ça, elle maçonne. C'est dans le rock, l'édifice de ta personne. Solidaire sous le rock, le graveur sonne. Laissons opérer le Père, au Saint-Esprit qu'on opère. Ok, marchons dans les pas du Père. Ramenons les fils du Père, tu sais. Laissons opérer le Père, au Saint-Esprit qu'on opère. Ok, marchons dans les pas du Père. Ramenons les fils du Père.
On est tous des enfants du Seigneur.
Vivante Église, Isabelle Duché.
Joie de la confession, conseil et encouragement. Nous sommes avec l'auteur de ce livre, le père Gaspard Craplet, prêtre de la société Saint-Jean-Marie Vianney et de passage dans notre région pour donner une conférence sur ce sujet. Gaspard Craplet, il faut prendre son temps. Vous nous avez parlé au début de cette émission de la joie, hein, joie de Dieu, joie du prêtre, joie du pénitent et puis aussi joie des autres d'aller se confesser. Vous nous avez aussi dit qu'il ne fallait pas avoir peur d'aller voir un prêtre pour se confesser en se disant « Oh là là, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» et puis ne pas avoir honte de ses péchés. Il y a aussi peut-être dans le fait d'avoir du mal à aller se confesser un véritable combat spirituel.
Alors oui, parce que moi je parle beaucoup de la joie de Dieu et tout ça, du pénitent, mais il y a quelqu'un qui n'est pas joyeux, c'est le diable. Objectivement, le diable existe, on le dit à la fin du chaque Notre Père, « Délivre-nous du mal hein. », en grec c'est « Poneru », c'est le mauvais, c'est une personne, hein, donc, et c'est même pas « délivre-nous », c'est « arrache-nous hein, », littéralement, « arrache-nous au diable ». Donc le diable est là, il est là comme un lion qui rôde pour dévorer, hein, nous dit Saint-Pierre. Donc il existe, et lui, il veut surtout pas qu'on aille se confesser. Alors, Saint-Ignace de Loyola distinguait, donc il y a 450 ans, distinguait trois techniques du diable pour nous empêcher d'avancer dans la vie spirituelle et donc de nous confesser. Mmh. Donc il dit, il agit comme un capitaine, il agit comme un séducteur et il agit comme quelqu'un qui fait peur. Alors, le premier point, comme capitaine. Un capitaine, pour prendre une place forte, le diable, comme un capitaine, qui pour prendre une place forte, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque pas d'un coup parce qu'on ne sait pas d'où la défense va venir. On met le siège, on regarde bien, on regarde l'endroit le plus faible, et là...
Il détermine la stratégie.
Voilà, ouais. On met toutes ses forces sur l'endroit le plus faible. Et là, pouf, ça rentre. Donc nous, il faut qu'on sache quel est l'endroit le plus faible. Voilà. Alors, l'endroit le plus faible, hein, c'est pas très compliqué. Il y a les trois grandes grandeurs classiques. Hein, la question de l'argent, voilà. La question du pouvoir, de l'orgueil, voilà. Et puis troisièmement, toute la question de la sexualité. Voilà. Donc le diable, il va attaquer par là, voilà, par ses points principaux. Et donc il faut le savoir. Et alors c'est là que je mets au point cette technique, comment dire les choses qui sont par lequel le diable est rentré, les choses vraiment, il attaque par là et ça nous fait honte parce que c'est les points classiques. Donc on n'ose pas dire ses péchés. Notamment tout ce qui est les questions de la sexualité, tout ça, ben on est mort de honte, tout ça. Donc le diable veut le secret. Donc il nous dit non, mais n'y va pas. Voilà, donc,
tu ne vas pas dire ça, voilà, ça va te dévaloriser.
Voilà, donc alors comment faire? Moi j'aime bien l'exemple du lac de montagne. Dans un lac de montagne, si on fait un plouf, qu'il y a encore de la neige au centre du lac, et encore un énorme iceberg, à ce moment-là, l'eau est maintenue à température et l'eau elle est à peu près à 2 degrés. Donc, pour faire un plouf, ce n'est pas évident. Mmh. Alors, pour y aller, il faut prendre de l'eau, se le mettre sur la nuque pour prévenir le corps on va avoir quelque chose et pour éviter l'hydrocution. Donc, on prend de l'eau, on met sur la nuque et ensuite, on y va. Eh bien, de même, se mettre de l'eau sur la nuque, c'est dire au prêtre... Voilà, je vais commencer par le plus difficile. Voilà, c'est très dur pour moi. Ou, comme m'avait dit un étudiant, ce que je vais vous dire est grave, c'est donc pas la peine de me le faire remarquer. Voilà. et une fois qu'on a dit ça, eh ben, on se lance. Voilà. Donc, c'est la technique du lac et on y va d'un coup. Voilà. Il y a aussi, évidemment, l'idée de dire « Non, mais moi, je vois pas trop ce que j'ai à dire. Voilà. » Alors ça... c'est qu'on n'a pas assez fait le tour de notre place forte et que du coup, on n'a pas repéré par quel endroit le diable va arriver. Quand j'étais dans la marine, on avait un avis de tempête et on savait que la tempête allait arriver. C'était toujours difficile à croire parce qu'il y a ce qu'on appelle le calme avant la tempête. Et donc, vraiment, c'est le calme plat et on se dit « mais non ». Or, on doit, et ça fait partie des procédures, on doit faire le tour du bateau pour repérer qu'est-ce qui va pas. Et moi, je me rappelle, par exemple, que j'avais laissé mon appareil photo sur mon bureau. Et ça, il ne faut pas faire ça, parce qu'il va y avoir une tempête.
En cas de tempête, il va tomber.
Bien, il n'est pas que tombé. En cas de tempête, il est parti à l'horizontale, projeté. S'exploser contre le mur d'en face. Et donc, j'ai perdu toutes mes photos. Voilà. Et je me souviens que, pareil, les matelots, ils avaient oublié de mettre le petit crochet qui empêche la porte du frigo de s'ouvrir. C'est vrai qu'il y a un aimant, mais en cas de tempête, ça ne suffit pas. Et la porte s'est ouverte, et finalement, à force de s'ouvrir, de se refermer, tout ce qui est dans le frigo est parti, mais aussi le frigo a fini par se déceler du mur, et ça a cassé toutes les chaises, toutes les tables, enfin, c'était la catastrophe. Donc tout ça pour un petit crochet qu'on avait oublié de mettre. Donc pour dire que, attention, il n'y a pas de petit péché. Et oui, peut-être que je ne vois pas trop. Alors ceux qui sont mariés, je leur dis, demandez à votre femme, demandez à votre mari. Mais sinon, il faut demander aussi à l'Esprit-Saint de voir, il y a des petits péchés peut-être, et il y a tous les péchés par omission. Parce que le jour du jugement dernier, dans la parabole du jugement dernier, qui est plus qu'une parabole, qui est une sorte de description, Jésus nous dit, alors le roi dira à ceux qui sont à ta gauche, éloignez-vous de moi, maudits vous tous qui faites le mal. Alors ils disent, mais on a rien fait de mal. J'avais faim, vous ne m'avez pas demandé à manger, j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Tout sert tous les péchés par omission.
Oui, alors, c'est ce qu'on dit dans le Je confesse à Dieu aussi.
Et oui, il y a tous ces péchés.
Péchés en pensée, en parole, par action et par omission.
Et par omission. Il y a tous ces péchés que... Et donc, dire, j'ai rien fait de mal, dans la parabole, ils disent aussi, j'ai rien fait de mal.
Voilà. Mais t'as pas fait le bien non plus.
Et t'as pas fait le bien. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des premiers points, c'est qu'il faut prendre ce temps. Alors, c'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu est importante pour ça. Quand on lit Saint Paul, on lit une parabole, et on laisse le Seigneur nous toucher. Parce que la faute est auto-dissimulante, disait Paul Ricoeur. Donc, instinctivement, c'est psychologique, mais on s'auto-justifie. Et plus le temps passe, plus on s'auto-justifie. C'est-à-dire que si on attend pour aller se confesser, parce que sinon, c'est l'idée. C'est-à-dire que comme on a honte, on n'a pas envie,
on procrastine.
Et puis, on se dit aussi, j'irai plus tard quand je ne pécherai plus. Parce que ça sera plus facile psychologiquement de dire, voilà, j'ai fait ça, mais c'est de l'histoire ancienne. Mais en fait, on ne peut pas... C'est un peu comme si quelqu'un qui dit, je ne vais pas voir le médecin, j'attends d'être guéri parce que j'ai honte d'être malade. Mais le médecin, il est là pour nous guérir. On ne va pas être guéri si on ne va pas voir le médecin. Donc, c'est complètement absurde. Mais psychologiquement, c'est ça. Et puis, c'est un peu comme la chambre qui n'est pas rangée régulièrement. Au bout d'un moment, on s'habitue, quoi. On s'habitue et
puis, on se dit à quoi bon, finalement.
Puis surtout, on ne voit plus. On ne voit plus alors que... y a besoin que régulièrement, on aille faire la lumière. Et ça... Et c'est pour ça que, dans le doute, je dirais qu'il faut aller se confesser régulièrement. C'est pour ça que c'est important. L'Église demande une fois par an, c'est vraiment le minimum. Mais moi, je ne me souviens plus du tout des péchés que j'ai faits il y a un an. Non, nous, dans notre société de prêtres, on s'oblige à y aller tous les mois. Voilà. Et si on peut y aller plus, mais ça, c'est le minimum. Et si on peut y aller plus, c'est bien. Et un jeune avait demandé au pape Benoît XVI tous les combien il fallait aller se confesser. Il n'avait pas répondu à ça. Il lui a dit, à ton avis, tous les combien il faut nettoyer ta chambre. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un rythme pour la chambre, en tout cas, au moins hebdomadaire, pour la confession, peut-être pas chacun de voir.
Une fois par mois,
mais en tout cas,
c'est bien.
D'y aller régulièrement pour ne pas s'habituer au péché.
Ouais. Voilà. Donc il faut repérer, Père Gaspard Craplet, pardon, il faut repérer donc ce maillon faible, ce chemin qui nous conduit en fait vers notre péché. Et puis il y a aussi ce rôle du diable qui est séducteur et qui nous empêche là aussi, par ce rôle-là, à aller nous confesser, à faire ce pas.
Séducteur, ce que ça disait Saint Ignace, c'est qu'il disait que celui qui est séducteur et qui veut séduire la fille d'un homme de bien. Voilà. Eh bien, il ne redoute qu'une chose, c'est que cette fille en parle à son papa. Tu sais, il m'a proposé d'aller chez lui un week-end en montagne dans son chalet tout seul parce qu'il a des idées et tout ça. Voilà, le papa, il réagit. Donc, à partir du moment où on sort du silence, il est repéré, le diable. Et à ce moment-là, il ne peut plus agir. Et donc, lui, il veut le silence. Donc, premièrement, il ne veut pas qu'on aille se confesser. Déjà, ça, c'est le mieux. Si on va se confesser, il ne veut pas qu'on dise tout. Voilà, il y a des jeunes comme ça qui m'avaient dit, mais il faut tout dire. Je dis, en fait, si tu dis pas tout, tu te moques de Dieu, quoi. Donc, il faut, je dis, sauf si c'est pas grave, des petits péchés pas grave, mais si c'est grave, moi ce que j'ai fait c'est grave, donc il faut le dire, oh là là.
Et puis on n'est pas pardonné de ce qu'on n'a pas dit, volontairement.
C'est-à-dire que même l'ensemble du sacrement, qu'est-ce qu'il en est, moi je suis pas à la place de Dieu, mais en fait le Seigneur, il a besoin qu'on ouvre la porte du cœur. Voilà. Donc, si on ne veut pas ouvrir, qu'on laisse, on entrebâille, on laisse un peu le verrou, on ouvre juste la fenêtre, on entrebâille, c'est pourquoi. Voilà. Donc, il s'agit d'ouvrir son cœur. Donc, le diable, il ne veut pas qu'on dise. Voilà. Donc si jamais on a entendu cette conférence et que du coup on veut quand même le dire, alors en ce cas-là, il dit, ok, mais il faut employer, dit le diable, il faut employer des mots ce qu'on ne comprenne pas trop. Par
Rester
exemple,
évasif.
Le jeune qui dit, j'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Alors moi, je lui dis, ah bon, t'as vu les plans du dernier sous-marin nucléaire français? Mais je me doute, mais voilà. Donc non, il s'agit d'appeler un chat. Voilà. Parce que le diable aime beaucoup les non-dits, les sigles, les approximations. Voilà. Qu'on ne dise pas les choses franchement. Ça, le flou, il adore. Voilà. Il n'aime pas la lumière. Voilà. Donc, il faut pouvoir dire les choses clairement. Voilà. Donc ça, c'est... Et moi, j'aime bien dire... que ça vaut le coup, de temps en temps, en tout cas, et peut-être à vous qui écoutez cette émission, se dire, voilà, par exemple, avant Pâques, là, je vais vraiment demander au Seigneur qu'est-ce qu'il y a de gros et que j'ai jamais osé dire, ou que j'ai dit une fois de façon très subtile, sans le dire cash, ou des choses que je crois avoir confessées, mais que j'ai fait dans mon enfance et qui m'encombrent. Parce que Des choses qu'on a laissées pourrir dans son cœur, eh bien, il y a des moments, régulièrement, et peut-être là, ce temps du carême est le moment, ouvrir son cœur, franchement, pour faire le ménage. Parce que sinon, le péché, eh bien, s'infecte. Et en fait, ça suppure et ça nous fait du mal. Et puis, ça peut être la septicémie. Hein. Moi, un jour, je me suis mis une écharde sous l'ongle. Bon, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai enlevé à la main. J'ai bien vu qu'il restait quelque chose au fond. Je me suis dit, le corps est bien fait. Il saura bien s'en débarrasser. 15 jours plus tard, j'étais en montagne, dans la neige, avec une responsabilité, avec des jeunes. Je pouvais pas partir. Et mon pouce était devenu très gros, très dur. Et ça me faisait hyper mal. Et je me suis souvenu qu'il y avait ce petit bout.
Cette petite épine.
Donc, je ne pouvais rien faire. Et là, ça m'est venu d'un coup. J'ai sorti mon opinel, je suis allé chercher ce petit bout qui était coincé, je l'ai sorti, j'ai désinfecté, et puis tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Et il me semble qu'il faut pouvoir dire les choses franchement. Et donc là, alors ça coûte un peu, mais quand on fait la lumière, un peu comme aussi, on pourrait dire, je décide de ranger ma chambre, et je dis à mes amis... Eh bien, je vous invite à prendre l'apéro chez moi, vous verrez, ça sera nickel.
Ça sera beau.
Voilà.
autre peur, ou en tout cas autre frein que le diable met dans notre cœur, c'est de dire, en fait, on ne voit pas trop ce qu'on a fait de mal, quoi.
Voilà, à quoi bon? À quoi bon? Ça, c'est la aquabonite classique. On se décourage surtout, moi je dirais, parce qu'on ne voit pas trop, on l'a étudié sur le fait que il faut que le Seigneur nous éclaire, mais surtout le découragement. Moi, j'ai eu une phrase un jour terrible d'un jeune qui m'a dit « J'ai tout essayé, même la confession, je n'y arrive pas. » C'est-à-dire qu'il y a des péchés dans lesquels on retombe. Mais oui, on retombe.
Oui, on Seigneur dit souvent la même chose.
Mais le Seigneur ne veut pas qu'on se décourage. Qu'est-ce qui différencie un saint d'une autre personne? Nous, on croit, et c'est très mauvais comme image, on croit qu'un saint, c'est comme une statue. C'est quelqu'un qui a les mains jointes, le regard béat, et qui
est parfait.
Ne fait rien, qui est parfait. Non, le saint, c'est celui qui se relève toujours. Ça, c'est très important à comprendre. Et le Seigneur, c'est Saint Grégoire le Grand qui dit, le Seigneur, entre quelqu'un qui n'est pas tombé et quelqu'un qui est tombé et qui s'est relevé, préfère encore celui qui est tombé et qui s'est relevé parce qu'il est plus humble. Donc Dieu veut sans cesse nous pardonner, jamais... Moi, j'aime bien, je vous ai parlé de la parabole de l'enfant prodigue, mais il faut regarder les deux petites paraboles qui sont avant. Si vous regardez dans votre Bible, vous allez voir que la parabole de l'enfant prodigue, elle est très longue.
Oui.
Mais il y a deux petites paraboles avant qui introduisent. Et d'ailleurs, au début, l'auteur Saint-Luc dit, alors Jésus leur dit sept paraboles. Pour dire que cette parabole, en fait, ces trois paraboles n'en font qu'une seule. Il commence par une brebis qui est égarée et le berger abandonne les 99 pour en chercher une. Alors nous, on dit, ça ne me concerne pas, quoi. Il y a des gens qui pêchent, mais ce n'est pas moi. Moi, je fais partie des 99. Ensuite, la deuxième parabole, une femme avait 10 pièces d'argent, elle en a perdu une. Elle nettoie toute la maison pour essayer de rechercher la pièce d'argent. Ah, 1 sur 10. Donc là, c'est 10%. C'est plus 1%, c'est 10%. Donc là, oui, mais moi, je fais partie des 90% qui n'ont pas besoin. Ensuite, la parabole de l'enfant prodigue. Un homme avait deux fils et il y en a un qui est perdu.
En fait, à chaque
donc
fois.
Là, Bah, il y a 50%, 1 sur 2. Alors là, on commence à se dire, bah, est-ce que je suis concerné? Puis là, on se dit, non, moi, je fais partie des 50% qui sont bien. Et puis, à la fin de la parabole, on s'aperçoit que le fils aîné est perdu aussi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 100%. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous pécheurs. Dieu vient chercher chacun d'entre nous pour le prendre sur ses épaules, pour venir le chercher. Et il veut toujours nous pardonner, jamais. Et puis, attention, Dieu ne se souvient pas du mal qu'on a fait. Hein, Dieu, quand il pardonne, il ne dit pas encore, etc. Non, donc il y a jamais on ne doit se décourager. Le Seigneur vient nous chercher toujours et il nous fait ce miracle extraordinaire de nous refaire complètement à neuf, même si on est déjà tombé. Et c'est ça, à mon avis, c'est par la persévérance que vous serez sauvés, nous dit Jésus. Donc il s'agit de persévérer. Et la délivrance vient toujours. Et quand bien même il y a cette écharde qui nous reste dans la chair, parce que saint Paul aussi avait un souci, on ne sait pas lequel. Il y a des grands saints, des mystiques qui disent mais c'est peut-être une question de tentation contre la chasteté qui nous agace. Saint Paul avait cette écharde dans la chair et il a dit au Seigneur, voilà, ce péché, cet ange de Satan qui le soufflait, enfin quelque chose dont il avait honte, voilà, en gros, et qui revenait, donc ça l'agaçait. Donc il a dit au Seigneur, Seigneur, ôte-moi cela, voilà, ôte-moi cela. J'ai prié trois fois le Seigneur pour qu'il m'enlève ce péché et qu'il m'enlève cette écharde dans la chair. Et le Seigneur lui a dit, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Voilà, donc, ma grâce te suffit. Et c'est très beau. C'est-à-dire que malgré notre péché, malgré notre médiocrité, eh bien en fait, si on se tourne vers le Seigneur, à ce moment-là, tout est possible. Moi, j'aime bien l'image de Saint-Pierre qui marche sur les eaux. Il voit Jésus qui marche sur les eaux, il a peur, Jésus dit non, c'est moi, et Saint-Pierre dit écoute, si c'est toi, si c'est vraiment toi, donne-moi moi aussi de vivre comme un chrétien. C'est-à-dire sur les eaux, c'est la mort, c'est le péché. Donne-moi moi aussi de sortir de la marche et de marcher sur les eaux, de ne plus pécher, voilà, de venir vers toi. Et Jésus lui dit viens. Et il sort de la barque, il marche, alors qu'il ne sait pas nager, Saint-Pierre, hein. Les Juifs, c'est pas un peuple de marins. Il marche sur les eaux et dès qu'il commence à douter, à se regarder soi-même, à ce moment-là, il coule. Mmh. Et à ce moment-là, il crie vers le Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus le sort. Et c'est ça, il nous faut garder les yeux fixés sur Jésus avec cette confiance de la miséricorde. Et ce n'est pas pour rien que dans ces temps modernes, Jésus est apparu à Sœur Faustine pour lui montrer cette image et lui inviter tout le monde à dire « Jésus, j'ai confiance en toi ». Voilà, comme Saint-Pierre, voilà, marcher sur les eaux, c'est « Jésus, j'ai confiance en toi ».
Voilà, et c'est ce qu'on retiendra pour conclure cette émission. Gardez les yeux fixés sur Jésus avec confiance. Merci Père Gaspard Craplet.
Avec joie.
Je rappelle le titre de votre livre « Joie de la confession ». Encore joie, oui. Conseil et encouragement aux éditions Yeshua.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.